Épilogue. C'est une journée d'été orageuse et grise. Le ciel est bas, l'air est lourd. La pluie menace de tomber. La foule est dense sur le parvis de l'église Notre-Dame des Victoires. Une foule compacte qui continue de grossir. Joseph disait toujours à Johann,
« Pour connaître l'âge du mort, compte le nombre de personnes présentes à son enterrement. Plus il y a de monde, plus il est jeune. »
Johann avait demandé ce qui expliquait cette absurde théorie, et Joseph avait répondu en haussant les épaules.
« Un enterrement de vieux, ça n'émeut pas grand monde, on s'y déplace pas. »
Johann, du haut de ses 9 ans, avait répliqué.
« C'est faux, ça !»
Joseph avait haussé de nouveau les épaules.
« Alors, je te donne une autre raison. Les amis des vieux sont déjà vieux ou morts. »
En cette matinée du 20 juin, la foule ne ment pas. C'est un jeune homme qui est décédé. Il y a des familles avec des nouveau-nés sur le parvis, mais aussi beaucoup de jeunes gens qui semblent à peine sortis de l'université, des amis. Johann est arrivée sur Roanne par le train en début de matinée. Elle a dû se lever à l'aube, à 4 heures du matin. Elle n'a pas réussi à dormir sur le trajet et une fois à la gare, elle a dû affronter les cartes incompréhensibles du réseau de bus de Roanne avant de se tromper 2 fois de ligne. Elle songe qu'elle n'a jamais été habituée à la ville, mais que ces 12 mois en marge de la civilisation au cœur des Pyrénées ont terminé de la rendre totalement inadaptée à la vie citadine. Les cloches sonnent, annonçant le début imminent de la cérémonie. La foule se presse à l'intérieur. Johann reste en retrait sur le trottoir d'en face, à une bonne centaine de mètres de l'église. Elle entrera quand tous les gens auront pris place à l'intérieur. Elle se sent étrangère en ces lieux. Plus de 100 personnes sont venues dire adieu à Émile. Plus de 100 personnes qui l'ont connue, côtoyée, aimée. Pourtant, c'est avec elle, inconnue entre tous, qu'il a choisi de mourir. La foule est entrée dans l'église et elle se glisse par l'entrebâillement de la lourde porte en bois juste avant qu'elle ne se referme. Il reste une place au dernier rang. Elle s'y assied tandis qu'au premier rang, un mouvement se fait sentir. Un homme et une femme accompagnés d'un garçonnet viennent de se lever pour saluer une jeune femme retardataire. La mère du petit a les cheveux blonds et frisés et un air sérieux. Le père a les yeux rouges et les épaules basses. Il semble éploré. Ce devait être un très bon ami d'Émile, peut-être Renaud. Ils échangent quelques mots avec la jeune femme brune qui vient d'arriver. Elle a de longs cheveux bruns et parfaitement lisses qui descendent jusqu'au milieu de son dos, des lèvres rondes et 2 petites perles accrochées aux oreilles. Elle est belle mais d'une beauté assumée, presque insolente. Pourtant ce matin, elle a le visage un peu vide et les yeux égarés. Un raclement de gorge profond annonce l'arrivée du prêtre qui dirige la cérémonie. Les 3 adultes s'empressent de s'asseoir. Le silence devient encore plus total dans l'église. Johann n'écoute pas vraiment les mots qui sont prononcés. Elle regarde l'urne argentée posée sur l'autel. Elle regarde les personnes qui se lèvent l'une après l'autre pour lire un passage de la Bible ou compter les louanges d'Émile. Parmi eux, il y a l'ami éploré que Johann avait soupçonné d'être Renaud. Elle ne s'y est pas trompée. Elle laisse son regard vagabonder sur la foule encore. Elle devine Marjorie derrière le visage pâle et les ondulations brunes. Elle devine le père et la mère, à leur dos courbé et lourd au premier rang. Les bébés dans les poussettes sont silencieux. Un murmure parcourt la foule lorsque la mère s'avance devant l'autel avec un carnet noir à la reliure en cuir. Johann se redresse. Elle attrape quelques mots du prêtre à propos du voyage en montagne entrepris par Émile avant son grand départ, un voyage qui l'aurait rapproché de Dieu. Johann fronce les sourcils. La voix éraillée de la mère d'Émile s'élève. Le passage lu est court. Il laisse la foule pleine d'interrogations sur ce voyage dont personne ne sait rien. Johann se terre d'instinct sur son banc.
Je vais bientôt mourir et je ne me suis jamais senti aussi en paix avec moi-même. Je porte un nouveau regard sur moi, sur le jeune homme un peu stupide que j'ai été. Mais ce regard est bienveillant. Je me sens grandi grâce à ces quelques mois. Je me sens élevé. la voix meurt dans l'église au milieu des reniflements et des bruissements de mouchoirs. Quand le prêtre reprend la parole, la femme blonde aux cheveux frisés, la compagne de Renaud, sort de l'église pour faire taire le garçonnet qui s'est mis à pleurer. Johan se glisse derrière elle par la lourde porte de bois et se retrouve sur le parvis de l'église. L'air s'est encore alourdi. Elle traverse la route et s'assied plus loin sur le trottoir d'en face, sur une petite marche menant à un appartement. De là, elle a une vue sur la sortie de l'église et elle pourra suivre la procession de loin jusqu'au cimetière. Elle ne sait pas ce que les parents d'Émile ont prévu de faire de ses cendres, mais elle suppose qu'ils les poseront sur une sépulture au cimetière. Elle lève les yeux vers le ciel. Il est opaque et gris. On ne distingue ni nuages, ni traînées, ni rides. Aucun mouvement. Elle songe que Tom et Émile n'ont pas fait leur travail aujourd'hui. Ils ont été bien fainéants. Ils sont probablement trop occupés à faire connaissance. Ils n'ont que faire de cette cérémonie impersonnelle. Peut-être Émile y jette-t-il un coup d'œil distraitement, tout en terminant une partie de Scrabble. Il avait une revanche à prendre il y a 6 mois. Elle laisse son regard se perdre dans ce ciel bas et cotonneux. Elle songe qu'elle aurait aimé une autre cérémonie. Quelques mots prononcés dans un sous-bois au pied des montagnes. Annie, Hippolyte, Sébastien, les 2 jeunes filles canadiennes, Isadora, Mariko, Lucia, Poc. Des bouquets de fleurs qu'ils auraient cueillis. Un livre de citations jaunies qu'ils auraient lu à voix haute. Un abri en brindilles qu'ils auraient construit et dissimulé sous la mousse épaisse des bois pour accueillir l'urne argentée. Elle laisse un sourire tremblotant naître sur son visage. Elle laisse les images de ce sous-bois et de cette cérémonie s'imprégner lentement dans son esprit. Ils ne sont plus qu'une 20aine à suivre la procession qui conduit les cendres d'Émile dans sa dernière demeure. Simplement la famille proche et quelques amis. Renaud est là. Sa femme est restée en retrait avec le bébé qui pleure toujours. Johan est loin derrière. Elle ne se sent pas appartenir à ce cortège, mais elle se doit d'accompagner Émile jusqu'au bout. L'urne argentée est déposée dans un minuscule caveau recouvert d'une plaque blanche. Johan voit Madame Verger porter un mouchoir à sa bouche pour étouffer un sanglot. Son mari passe un bras autour de ses épaules. Johan serre au creux de sa main l'anneau d'Émile, cette fausse alliance qu'elle lui avait achetée. Elle a eu le temps de la faire graver. À l'intérieur de l'anneau en acier se trouve une courte citation que Joseph aimait à lui répéter. Un proverbe corse. « Change de ciel, tu changeras d'étoile ». Il forme un mince sillon à l'intérieur de l'anneau. Tout à l'heure, quand la foule se sera dispersée, Johan viendra déposer l'anneau sur la petite plaque blanche. Ou peut-être l'enterrera-t-elle à côté pour éviter qu'un chat errant ne vienne l'emporter. Elle attendra d'ici, cachée par les arbres, que tout le monde ait disparu. Il a fallu presque 1 heure pour que la foule se disperse. C'est la pluie qui a mis fin aux embrassades et aux échanges de condoléances devant la petite plaque. Les parents d'Émile, sa sœur et son mari, ont quitté le cimetière en dernier sous un large parapluie noir. Johan apparaît enfin, semblant sortie du feuillage. Elle traverse l'allée centrale sous la pluie. Elle a prévu son châle noir pour l'occasion et elle le passe au-dessus de sa tête pour se protéger. L'anneau est dans sa main moite. Arrivée devant la plaque blanche, déjà recouverte de fleurs et de plaques commémoratives, elle s'agenouille sur l'herbe fraîche et elle reprend doucement son souffle. La fatigue n'a jamais vraiment cessé. Elle voit toujours des étoiles blanches danser devant ses yeux de temps à autre. Elle prend quelques secondes pour récupérer et elle se met à creuser, à main nue, la terre qui entoure la plaque blanche. La terre colore ses doigts et s'infiltre sous ses ongles de plus en plus noirs. La pluie ruisselle sur ses bras. Elle porte brièvement l'anneau à ses lèvres avant de le déposer dans la terre et de l'ensevelir. Quand elle se retourne, son cœur rate un battement et elle étouffe un hoquet de surprise. Marjorie se trouve là, à quelques mètres d'elle, sous un parapluie noir. Son visage est inondé de larmes mal séchées, mais ses yeux sont doux quand elle demande « Vous êtes Johan ?» Elle garde le silence en attendant que le serveur revienne avec leur commande. Marjorie a pris un café et Joanne une infusion. Tout à l'heure, dans le cimetière, alors qu'elle se faisait face et que Marjorie demandait « Vous êtes Joanne ?» l'averse a redoublé d'intensité. Joanne a juste eu le temps d'acquiescer avant que Marjorie l'abrite sous son parapluie et déclare « Suivez-moi, ne restez pas sous la pluie, il y a un café en face. » Joanne l'a suivie sans un mot, comme une automate, prise par surprise. Marjorie a poussé la porte du petit café et Joanne s'y est engouffrée. Elles se sont glissées entre les tables et ont pris place à l'une d'elles qui était libre contre la vitre. La pluie a formé de jolies gouttelettes sur le verre. Le serveur leur a sauté dessus aussitôt assises pour prendre leur commande et elles n'ont pas eu le temps d'enlever leur manteau. Marjorie est en train de le faire, tandis que Joanne essaie d'essuyer discrètement ses mains pleines de terre sur sa robe noire. De temps en temps, elle se lance des regards intrigués, mais jamais en même temps, et elle semble penser que quelques secondes de silence leur sont nécessaires pour rassembler leurs esprits. Le serveur ne revient pas. La veste de Marjorie a été déposée soigneusement sur le dossier de sa chaise, lissée du revers de la main. Le silence semble avoir duré assez longtemps pour elle. Elle se lance. Je suis Marjorie, la sœur d'Émile. Joanne acquiesce, cachant ses mains noires sous la table. Mon frère m'avait prévenu que vous risqueriez de vous faire discrète, peut-être même de vous sauver avant tout le monde. Joanne a du mal à masquer sa surprise. Elle sent ses sourcils qui se haussent et elle essaie de retrouver son impassibilité. Il nous a fait parvenir une lettre au mois de décembre avec de nombreuses instructions et cette information. Joanne se souvient de cette lettre. Il avait disparu un matin pour la poster et elle avait cru qu'il était parti définitivement, qu'il l'avait abandonné à Haas. C'est dans cette lettre qu'il nous a donné quelques indications pour vous repérer aujourd'hui. Il était question d'un chapeau noir, mais je vois que vous ne l'avez pas aujourd'hui. Joanne acquiesce, l'air toujours dépassé. Marjorie lui adresse un sourire pour tenter de la mettre à l'aise. C'est ce moment que choisit le serveur pour revenir avec leur commande. Il dépose un expresso devant Marjorie et un grand mug fumant devant Joanne. Marjorie attrape un sachet de sucre au centre de la table et le déverse dans son café avec application avant de le touiller. Puis elle relève son visage vers Joanne. J'ai lu son carnet en une nuit. Je l'ai ouvert et j'ai été incapable de le reposer avant l'aube. Vous savez que... Elle s'interrompt pour avaler une gorgée d'expresso et replante son regard dans celui de Joanne. Vous savez qu'il n'y a pas un seul passage, un seul jour de son journal de bord où il ne parle pas de vous ? Joanne se trémousse mal à l'aise. Elle est incapable de savoir que répondre. Pourtant, Marjorie poursuit comme si elle n'attendait aucune réponse. Le passage que nous avons sélectionné pour l'église faisait volontairement exception. Nous ne voulions pas vous mettre mal à l'aise. Nous savions que ce serait un moment difficile pour vous. Pourtant, nous tenions à vous remercier pour ce geste que vous avez eu. L'appel à mes parents, le tableau. Ma mère ne vous remerciera jamais assez. Vous lui avez fait beaucoup de bien avec vos mots. Je voulais que vous le sachiez. Quelques larmes roulent sur le visage de Marjorie et elle attrape une serviette en papier au centre de la table pour les éponger. Joanne ouvre la bouche pour la première fois. Elle demande d'une voix étranglée. « Vous avez pu le voir, une dernière fois ?» Marjorie renifle et range la serviette froissée dans sa poche. « Moi non, mais mes parents ont pu passer une dernière nuit avec lui dans ce cabanon. » Joanne repousse la boule qui obstrue sa gorge pour pouvoir demander. « Il est parti le lendemain matin ?» Marjorie hoche la tête. Il est parti à l'aube, dans la paix. Il paraît qu'il souriait. Les mots sortent de la bouche de Joanne comme dans un souffle. Il disait que cet endroit était le paradis. Il leur faut quelques secondes pour ravaler leur émotion et essuyer les larmes qui perlent au coin de leurs yeux. Pour s'y aider, Marjorie avale la fin de son expresso d'une traite. « Vous l'avez vraiment rendu heureux, » déclare-t-elle. Joanne laisse quelques secondes filer dans le café bruyant. La pluie tape toujours au carreau. Son infusion est en train de refroidir, alors elle la porte à ses lèvres. Marjorie se tamponne les joues du bout de son pull noir. Quand enfin elle relève la tête, une drôle de lueur brille dans son regard.
« Vous savez, j'ai une pièce chez moi, une pièce assez spacieuse. »
Joanne ne répond rien. Elle ne sait pas ce qu'elle est censée répondre. Elle laisse Marjorie poursuivre.
« Je l'ai récemment aménagée selon des consignes très précises qu'on m'a données. Une étagère que j'ai dû remplir de bouquins d'occasion, achetés sur une brocante. Une petite table basse avec des poufs en osier, sur laquelle j'ai placé une jolie théière d'époque avec une collection impressionnante de thés d'Orient, d'Inde, de Chine. »
L'incompréhension gagne le visage de Joanne, mais Marjorie poursuit.
Une litière pour chat, ainsi qu'un garde-manger complet pour félin. Près de la fenêtre, on m'a demandé de placer un chevalet. Dans l'armoire tout près, j'ai entreposé une série de toiles vierges qu'on m'a fait acheter, ainsi qu'un lot de 15 tubes de peinture et le nécessaire un pinceau.
Elle voit la bouche de Joanne qui s'arrondit. Elle continue son énumération.
Un vieux poste de radio vintage se trouve sur la table de chevet près du lit. On m'a demandé d'y déposer au-dessus la compilation complète de Miles Davis, de Louis Armstrong, d'Ella Fitzgerald et de tous les grands jazzmen que je pourrais trouver chez le disquaire. J'en ai trouvé une bonne dizaine. Après ça, j'ai été acheter une petite jardinière pour fenêtre, un sac de terreau et... Et le bougre m'a fait parcourir le rayon jardinerie pour dénicher des graines de fuchsia, de bégonia, de basilic et de romarin.
Joanne a compris. Sa bouche est ouverte, bien ronde. Les larmes ont recommencé à couler sur son visage.
« C'est lui ?»
murmure-t-elle. Marjorie acquiesce avec un sourire plein de tendresse.
« Ouais, c'est lui. » Cela faisait aussi l'objet de sa dernière lettre. 3 pages d'instructions.
Elles sourient toutes les deux entre le voile de leurs larmes. Quand leur sourire s'évanouit tout doucement, Marjorie prend un air plus grave.
Il voulait pas que vous vous retrouviez toute seule. Il savait que j'avais cette pièce vide et inutilisée. Il savait que je vous accueillerais volontiers.
Joanne veut dire quelque chose, mais Marjorie l'en empêche en continuant très vite.
Il m'a prévenu que vous risqueriez de refuser. Il m'a dit de vous dire que vous n'êtes pas obligé de vous y installer définitivement, que vous pouvez juste y passer quelques jours, ou vous en servir comme résidence de vacances.
Joanne ne parvient pas à sourire. Elle bredouille mal à l'aise.
Je suis vraiment navrée que vous ayez dû vous donner tant de mal.
Marjorie sourit et ses yeux noisettes pétillent.
Pour tout vous dire, ça m'a beaucoup amusée.
Pourtant, Joanne reste embarrassée.
J'ai ce petit terrain à Lesquin, dans cet éco-hameau. Je suis engagée dans le projet de permaculture. Et puis, Poc va devenir papa. Je veux dire, mon chat va avoir des petits prochainement. Je crois que je ne peux pas accepter votre proposition. Je ne suis pas une citadine, vous savez.
Marjorie ne semble pas vexée le moins du monde. Elle paraissait s'attendre exactement à ce genre de réaction.
Je comprends, Joanne. Mais soyez rassurée, il vous reste l'option résidence de vacances. Mes parents et moi serions ravis de vous rencontrer plus officiellement un de ces jours.
La bouche de Marjorie continue de bouger, mais plus aucun son ne franchit ses lèvres. De l'autre côté de la table, Joanne vient enfin d'enlever le châle qui enroulait son cou, ses épaules et son buste tout entier. Elle le dépose lentement sur la table, à côté de sa tasse fumante. Les yeux de Marjorie ne peuvent plus quitter ce qu'elle voit. Elle porte une main à sa bouche, se renverse contre le dossier de sa chaise. Le visage de Joanne en face reste serein.
C'est...
Marjorie ne parvient pas à parler. Elle tente de nouveau de formuler une phrase.
Émile ?
Joanne acquiesce. Elle voit de nouvelles larmes inonder le visage de Marjorie, recouvrir sa main toujours plaquée sur sa bouche.
Il le savait ?
Les yeux de Joanne se teintent d'une ombre de tristesse.
Non, il était déjà ailleurs depuis un certain temps.
De l'autre côté de la table, Marjorie pleure à chaudes larmes. Des larmes de bonheur cette fois, des larmes d'incrédulité.
Ça alors ? Vous allez faire pleurer toute la famille.
Les mains de Joanne se posent en douceur sur la bosse qui grossit sous sa robe noire. Sur ce petit être qu'elle sent enfin bouger, qui s'est implanté en elle un beau jour de neige dans la vallée d'Ass à la veille du réveillon de Noël. Cette petite chose qui l'a rendue si faible ces derniers mois et qui la rend si forte maintenant. Marjorie pleure. Joanne pleure à son tour dans le café bruyant. Elle songe que c'en est fini, que la malédiction est rompue maintenant. Elle en a bien assez des garçons qui disparaissent.
Vous savez ce que c'est ?
Demande Marjorie en attrapant une nouvelle serviette en papier pour se tamponner les yeux. Joanne acquiesce.
Une petite fille.
Marjorie sourit au milieu des larmes. Elle répète émue.
Une petite fille ? Une petite opale. La plus précieuse de toutes les pierres.
La pluie s'arrête tout doucement de tomber au dehors. Une buée a envahi la vitre. Dans la rue, un enfant s'amuse à y dessiner un soleil. Ni Joanne ni Marjorie ne voient l'éclaircie qui se dessine au dehors, cette jolie teinte bleue ambrée que prend le ciel. Plus tard, elles la verront. Plus tard, quand elles sortiront du café. Marjorie poussera un soupir d'aise en fermant à demi les yeux. Joanne sourira. Elle murmurera quelques mots.
J'ai commencé à m'impatienter.
Mais pour l'instant, elles sont toujours dans ce café et Marjorie déclare en rangeant le mouchoir dans sa poche.
Je crois que je vais avoir besoin de passer un coup de plumeau dans votre résidence de vacances et que je ferai bien d'aérer.
Joanne reste impassible de l'autre côté de la table, les mains posées sur son ventre.
Vous restez avec nous ce soir ?
Elle réfléchit quelques secondes. Isadora veille sur Poc et la chatte tigrée à l'esquin. Elle a prédit que la naissance n'aurait pas lieu avant un mois. Rien ne la presse à rentrer aujourd'hui.
D'accord, acquiesce Joanne. Mais je dois vous prévenir.
Marjorie fronce les sourcils, inquiète.
Oui. Pour le dîner.
Marjorie attend, penchée en avant. Joanne esquisse un sourire gêné.
Je ne mange pas de viande.
Chaque jour porte en lui l'éternité. Paolo Coelho, l'alchimiste.